Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Comment garantir bonne nutrition de l'enfant pendant les 1000 premiers jours? Chez un enfant, la nutrition joue un rôle important pendant les 1000 premiers jours pour un bon départ dans la vie. Cependant, bon nombre de parents ignorent les bonnes habitudes alimentaires et les méthodes appropriées pouvant garantir une bonne nutrition de l'enfant dès la conception. Face à cette situation, le programme alimentaire mondial PAM en sigle a lancé une campagne dénommée Faire de mes 1000 premiers jours un bon départ dans la vie. Cette campagne vise à sensibiliser la population générale, les parents et la communauté sur l'importance d'une alimentation diversifiée et équilibrée, sur l'allaitement exclusif et continu, mais aussi du rôle du papa, de la famille, de la communauté pour soutenir les 1000 premiers jours de l'enfant. Cette campagne est aussi l'occasion de sensibiliser la communauté et notamment les femmes sur les habitudes alimentaires adoptées pendant la grossesse et lors de l'allaitement pour protéger sa propre santé et celle de l'enfant pendant les 1000 premiers jours. Quel peut être l'impact de la nutrition pendant les 1000 premiers jours de l'enfant? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 09 716 80 79. Debs Vita est à la mise en œuvre de ce magazine. Julie Feza Bongonda sur la réalisation, la coordination. Jonathan Chimanga est là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Gomombala. Tout à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ce pays, n'existaient pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Nous allons parler de la nutrition de l'enfant pendant ces 1000 premiers jours. Comment garantir bonne nutrition de l'enfant pendant ces 1000 premiers jours afin de lui assurer un bon départ dans la vie? Eh bien, on en parle avec notre invité qui est dans ses studios, Dr Kweneya Doré. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité dans votre émission.
Voilà, vous êtes chef de la section nutrition du PAM RDC. Avec vous, on va parler de cette campagne qui a été lancée, j'imagine bien, c'est depuis quelques jours, depuis quelques mois la campagne.
Oui, cette campagne a été lancée le 26 août de cette année et c'est une première au Congo. Et elle va durer 3 mois, donc elle se finit vers le 26 novembre.
Et ça se passe déjà bien?
Oui, alors la campagne a été lancée dans quelques provinces, oui. Comme le Tanganyika, les Ubangi, le Kasaï et l'Ituri, pour des activités sur le terrain, mais elle concerne toute la RDC bien sûr, et grâce aux médias qui sont nos bras et nos bouches aussi dans les provinces où les activités n'auront pas lieu durant cette campagne. Donc finalement toute la RDC est concernée.
Voilà, c'est maintenant au tour de la Radio Capi également de parler de cette
tout
campagne. Alors expliquez-nous un peu pourquoi cette campagne.
Alors les 1000 premiers jours de vie, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est une fenêtre d'opportunité chez les enfants.
Oui.
Et les deux premières années de la vie sont, ça représente en fait une période cruciale pour pouvoir assurer un bon départ dans la vie, faire en sorte que l'enfant puisse avoir tout ce dont il a besoin pour assurer un bon développement physique, cognitif, psychologique, affectif. Parce que si ces capacités ne sont pas adéquates, elles peuvent ne pas être rattrapables après les 2 ans ou alors coûter très cher à la communauté, aux parents.
Alors quand on parle de 1000 premiers jours, aider donc, on pense 1000 premiers jours,
oui.
À partir de quel moment on va commencer à compter?
Voilà, les 1000 premiers jours de vie commencent à partir du jour de la conception jusqu'à la deuxième année de l'enfant. Mais tout en sachant qu'on ne dissocie pas le couple mère-enfant. Oui. Ce qui veut dire au bout du compte que la maman qui va tomber enceinte, il faudra qu'elle soit dans de bonnes conditions, qu'elle n'ait pas de carence. Et c'est pour ça que on va même parler de la jeune fille, de la fille, de la femme, enfin de la fille prépubère dans nos interventions.
Voilà. Alors, vous insistez alors sur quoi? S'il faut commencer d'abord pendant le 6 premiers mois, ou alors pendant la conception, pendant cette période juste de la grossesse, comment ça se passe cette campagne? On commence par une alimentation de la maman pendant la grossesse. Dites-moi comment
tout
ça se passe.
Tout à fait. Comme je disais qu'on ne dissocie pas le couple mère-enfant, oui. Une jeune fille ou une femme qui va donc tomber enceinte, il va falloir qu'elle ait une nutrition adéquate, tout en sachant que les femmes enceintes, elles ont des besoins accrus par rapport à une femme qui n'est pas enceinte.
Tout à fait.
Hein? On parle, je vous donne juste pour vous donner un ordre d'idée, une femme qui n'est pas enceinte aura besoin de 2100 calories, mais celle qui est enceinte ou celle qui allaite avec un nourrisson de moins de 6 mois aura besoin de 2700 calories. C'est quand même une grande différence. Il va falloir avoir une nutrition adéquate, nutritive, riche en vitamines pour éviter des carences parce qu'évidemment c'est pas qu'il faut manger pour deux, mais l'enfant tout au long, le fœtus tout au long de son développement va utiliser les ressources de la maman, donc il faut que la maman ait suffisamment de nutriments, de vitamines, de micronutriments. C'est très important. Il faut aussi, il y a tout le volet suivi au niveau des structures de santé pour les consultations prénatales. Ça c'est très important aussi pour détecter problèmes s'il y a, et puis obtenir aussi des recommandations pour l'alimentation, pour l'hygiène, c'est très important, de la femme enceinte.
Alors, allons-y pas à pas. Commençons par la grossesse qui dure environ 270 jours. Et puis, on va parler de la première année de vie et puis de la deuxième année de vie. Alors, pendant la grossesse, on y va progressivement. Qu'est-ce qu'on conseille à une femme pendant la grossesse?
Manger de façon adéquate des fruits, des légumes, des qui vont apporter des vitamines, qui vont apporter des fibres, des protéines, des produits laitiers. Vraiment s'assurer que tous les groupes d'aliments soient touchés. Et puis, bien évidemment, je pense qu'elle recevra aussi des multivitamines durant sa grossesse, parce que l'alimentation peut ne pas suffire. Voilà, en particulier pour le fer. Parce que quand même 60% des femmes, je pense, au Congo au moins sont anémiées en âge de procréer, ce qui est énorme. Et c'est vrai que pendant la grossesse, la consommation du fer par le fœtus est importante, donc on va supplémenter. Le repos, bien sûr, mais aussi l'exercice. Une femme enceinte, ça ne doit pas rester couchée à la maison. Il faut faire de l'exercice pour pouvoir justement faciliter cette grossesse et puis préparer l'accouchement aussi.
Alors ça, déjà, c'est pendant la grossesse. Voilà. Et pendant la grossesse, vous avez parlé de produits laitiers, mais lorsqu'on n'a pas une bourse bien garnie...
Voilà. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est important vraiment de se rendre dans les centres de santé pour les consultations prénatales, parce que ça se discute aussi au cas par cas. Mais les produits laitiers, c'est surtout pour avoir un apport en calcium. Le calcium, on peut le retrouver aussi dans certains aliments, dans les noix, tout ce qui est oléagineux.
Les huiles, hein, vous parlez de...
Non, c'est pas forcément dans l'huile, mais plutôt dans les noix.
Dans les noix,
voilà, dans les noix. Après, ça se discute parce que suivant la province aussi, d'où est issue la maman, enfin où se trouve la maman, on peut trouver tel ou tel aliment ou ne pas trouver, mais avoir une alternative. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être suivi pour une maman qui est, pour une femme qui est enceinte, de participer, de se rendre dans les structures de santé pour les consultations prénatales. Parce que ce volet nutritionnel est très important pour une bonne grossesse. Une grossesse avec minimum de complications, en tout cas, c'est vraiment extrêmement important.
Et vous insistez, pendant la grossesse, il faut une alimentation variée, équilibrée.
Variée, équilibrée. Et je vais juste vous donner un petit exemple. Oui. En RDC, une des premières causes de mortalité chez la femme qui vient d'accoucher, en postpartum, c'est l'hémorragie. L'hémorragie...
De perte de sang.
Oui, de perte de sang qui va entraîner un décès. Et l'alimentation a un rôle à jouer parce que la vitamine K, qu'on trouve dans les abats, dans le foie par exemple, qu'on mange, tous les abats d'animaux qu'on mange, sont riches en vitamine K par exemple, et aussi les feuilles vertes. Mais quand vous avez des carences, la coagulation ne se fera pas correctement. Ça veut dire que quand vous allez accoucher, s'il y a un saignement, l'arrêt du saignement va être difficile parce que vous manquez de vitamine K. Donc c'est juste un exemple. L'alimentation équilibrée, variée, est très importante et en quantité aussi adéquate. Donc il y a la qualité et la quantité.
Voilà, ça c'est déjà pour la femme pendant la grossesse. Alors prenons maintenant l'enfant qui vient de naître. Mmh. Qu'est-ce qui doit se passer dès la naissance de l'enfant ?
Voilà, donc avant de naître, il a été fœtus et l'alimentation et la santé de la maman ont un fort impact sur l'enfant. Une maman qui n'aura pas été, qui n'aura pas eu une nutrition, une alimentation correcte, un suivi correct, pourra avoir un enfant qui est petit de taille. Et c'est très fréquent en Afrique, hein, c'est pas commun à la RDC. Donc, une fois que l'enfant naît, les 6 premiers mois, il n'a besoin de rien à part du lait maternel. Tout est dans le lait maternel.
Mais c'est curieux, on n'arrête pas de répéter, de dire ça à l'ESMA exclusif pendant les 6 premiers mois. Mais beaucoup de femmes estiment, comment ne pas donner du lait à l'enfant pendant 6 mois?
Ben, le lait, c'est de l'eau, avec des nutriments, avec des vitamines, avec plein de choses, c'est très riche. Donc l'enfant n'a pas besoin, pendant les 6 premiers mois, il n'a pas besoin d'autre chose que le lait maternel. Et ça, ça commence dès la première heure de vie, où on va mettre l'enfant au sein pour qu'il puisse stimuler la lactation de la maman. Hein, tout est au niveau neurologique et puis grâce à l'action de succion de l'enfant. Donc ça commence dans la première heure de vie, c'est ce qu'on appelle le colostrum, c'est un lait un peu jaune qui est pas très beau à voir mais c'est une bombe de vie. C'est très riche, c'est le premier vaccin de l'enfant. Et il y a beaucoup d'anticorps, donc les enfants seront protégés grâce à ce colostrum et après par l'alimentation exclusive.
Donc pendant les 6 premiers mois, l'enfant n'a pas besoin.
Rien.
On ne donne pas à l'enfant.
Voilà. Le lait, c'est gratuit. Donc on n'a pas besoin de dépenser.
Oui.
C'est ça. Hormis certaines contre-indications médicales, parce que ça peut arriver. Par exemple, une maman, ça a été d'actualité, une maman qui est par exemple affectée ou infectée par le virus Ebola, durant sa phase de traitement, elle est contagieuse, elle ne pourra pas allaiter son enfant. Mais
voilà.
C'est rare. Vous voyez, c'est pas. Mais en règle générale, une maman peut allaiter et c'est très important pour l'enfant. Donc c'est son premier vaccin. Ça va lui assurer toute l'énergie, les vitamines, les micronutriments, tout ce dont il a besoin pour un bon développement. L'hydratation aussi sera faite grâce au lait. Donc, le lait, c'est pas tarissable, c'est gratuit, c'est sain. L'enfant, jusqu'à ses 6 mois, n'a besoin de rien d'autre.
Chère maman, vous avez bien suivi, hein, ne vous inquiétez pas. Pendant les 6 premiers mois de la naissance de l'enfant, il faut seulement du lait. Hein, ne vous inquiétez pas, il faut absolument que l'enfant puisse avoir de l'eau. Alors, à partir des 6 mois, on va commencer maintenant à introduire progressivement des aliments.
Oui, à partir du 6e mois, on va introduire progressivement les fruits. Parce que le lait ne sera plus suffisant en termes de d'énergie pour l'enfant. Pour pouvoir continuer son développement adéquat. Donc là, on va introduire progressivement des fruits, des légumes, des protéines animales, des protéines végétales.
Et le fruit, on fait comment pour...
Alors bien sûr, au début, l'enfant, il n'a pas de dents.
Oui.
Donc il va falloir tout faire sous forme de bouillie. Hein, de bouillie de fruits, de bouillie de légumes. On met même quelques céréales. En essayant d'utiliser des céréales comme le riz, des céréales qui ne vont pas être agressives pour le système digestif de l'enfant. Donc ça va être des bouillies de riz, des bouillies de... où on peut mettre des fruits dedans. Voilà. Et j'insiste aussi sur l'hygiène. Hein. C'est très très important pour éviter de contaminer les aliments qu'on va donner à l'enfant. Et c'est pour ça que durant les 6 premiers mois où l'enfant est fragile, l'alimentation va permettre d'éviter tout ce qui est infection digestive due aux aliments mal lavés, aux mains sales, etc.
Ça c'était pour après le 6 mois, donc pendant la première année de l'enfant.
Voilà.
Et l'alimentation est différente pendant la première et la deuxième année de l'enfant.
Oui, parce que les besoins vont augmenter de plus en plus et on va introduire des aliments qu'on n'introduisait pas avant. Par exemple, bon, ça c'est anecdotique, le chocolat par exemple. La poudre de chocolat chez un enfant, ça se donne vers les 12 mois. Ça se donne pas quand l'enfant a entre 6 et 12 mois. Et quand on introduit ces aliments, on continue l'alimentation maternelle à côté. On dit bien que c'est une alimentation complémentaire.
Il faut toujours continuer à allaiter l'enfant.
Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que toujours on aura les anticorps, on aura des vitamines, des nutriments. Et puis aussi, ça a un effet psychologique, ça a un effet relaxant pour l'enfant, rassurant, ça va lui permettre d'avoir un meilleur développement psychologique, émotionnel. Donc c'est très important. Et puis ça a aussi un effet sur la maman, ça prévient le cancer du sein. L'alimentation, l'allaitement maternel prévient le cancer du sein chez la femme. Ça c'est prouvé, c'est scientifique. Donc c'est un bénéfice pour l'enfant. C'est un bénéfice pour la maman.
Et donc vous avez dit, pendant les 6 premiers mois, allaitement exclusif au sein.
Oui.
Et ensuite, après 6 mois, on peut commencer à ajouter progressivement des aliments sous forme
De bouillie, puis après en petits morceaux, des quantités qui vont augmenter, des aliments qu'on va aussi rajouter, parce qu'il y a des aliments pour les tout petits, les enfants de 6 à 12 mois par exemple, qui peuvent provoquer des allergies, comme le chocolat par exemple. Où il y a des fruits, bon, on les trouve pas ici, mais ça peut arriver. Donc, plus l'enfant va se rapprocher des 2 ans, plus les quantités vont augmenter, et puis il y a des aliments qu'on va rajouter, et puis ça va être des petits morceaux après.
Et pour les femmes qui ont des problèmes de la montée de lait, on fait
qu'est-ce que oui, ça peut arriver, mais c'est pour ça que dès la première heure de vie, il faut mettre l'enfant au sein. Et comme je le disais, c'est psychologique, donc il faut que la maman elle soit dans de bonnes conditions, même psychologiques. Et c'est là que le papa aussi rentre en jeu. Parce qu'une maman qui est stressée, par exemple en temps de guerre, les mamans sont perturbées. Ça peut avoir un impact sur la montée de lait. Ça peut faire que la maman aura une montée de lait insuffisante. Mais il ne faut pas désespérer. Il faut continuer. Il faut mettre l'enfant au sein. Parce que c'est l'enfant avec le phénomène de succion. Ça va monter au cerveau et il va y avoir... libération, bon je ne veux pas rentrer trop dans les détails, libération d'hormones qui vont favoriser la lactation. Il y a aussi des aliments qu'on peut prendre, il y a des tisanes, hein, je pense ici, il y en a dans d'autres pays, des tisanes qu'on donne aux mamans pour favoriser la lactation. Et il faut être bien hydraté. Une maman qui ne boit pas
souvent, boire souvent de l'eau.
Et oui, parce que le lait c'est de l'eau.
Boire de l'eau ou beaucoup d'eau? Boire de l'eau ou beaucoup d'eau?
Beaucoup d'eau.
Beaucoup d'eau. Okay.
Pas d'alcool.
Pas d'alcool.
Pas de cigarette.
Pas de cigarette, pas d'alcool. Voilà, on a plus parlé de la maman. En fait, c'est elle, vraiment, l'actrice principale. Parlons de la communauté, c'est-à-dire du papa, de la famille. Comment on peut accompagner ces
Jeux de l'enfant? Le papa a un rôle durant la grossesse. Et puis une fois que la maman a accouché, il y a ce rôle, c'est l'homme, c'est le père de famille. Il est là pour aider physiquement la maman, mais aussi psychologiquement. Donc le rôle du père est vraiment très important, parce qu'une maman qui va être perturbée, la grossesse peut être aussi perturbée, l'accouchement, et il y aura un impact sur l'enfant. Parce que les enfants, quand ils sont dans le ventre de la maman, ils ressentent les choses, ils entendent la voix du papa, ils entendent la voix de la maman. Quand la maman est stressée, ils le ressentent, parce qu'il y a des libérations d'hormones. Donc le papa a un rôle très important, et la communauté aussi, d'entourer la maman, de donner des recommandations. Dans les communautés, vous avez les mamans plus âgées ou les mamies qui ont eu des enfants, les relais communautaires aussi qui ont été formés, qui peuvent justement assister la maman. Hein, quand elle ne va pas dans les centres de santé, elle a des visites mensuelles, mais après, au jour le jour, toutes ces personnes peuvent communiquer avec la maman, donner des recommandations, aider, et puis à l'accouchement, c'est pareil. Ce qu'on appelle les matrones, en fait.
Et tout à fait. Donc, elles sont importantes pour encadrer les mamans.
Alors,
avant d'ouvrir, parce que c'est une émission où les auditeurs interviennent également, avant d'ouvrir les standards, c'est une question de curiosité. Il y a certaines femmes, vous avez parlé d'une alimentation variée, mais il y a certaines femmes, surtout pour l'enfant, qui disent à un moment qu'il y a tel aliment, que l'enfant ne supporte pas. Alors, on se concentre sur des aliments que l'enfant tolère.
Enfin, quand on dit ne tolère pas, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que quand vous donnez à l'enfant, soit l'enfant fait de la diarrhée, soit l'enfant ne supporte pas cet aliment. Simplement, l'enfant n'a pas, vous sentez que l'enfant n'a pas besoin de prendre ça.
Oui, alors les cas de diarrhée, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il faut une hygiène quand on prépare les repas.
Oui.
Parce que si l'aliment est contaminé, ben, ça va donner de la diarrhée. Ça peut être une simple diarrhée, mais ça peut être une diarrhée beaucoup plus sévère qui va entraîner une malnutrition. Et puis ça peut même entraîner les décès chez les jeunes enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant 6 mois, on dit pas d'aliments. Parce qu'un enfant qui est déshydraté avant 6 mois, ça devient vite catastrophique.
Voilà.
Donc c'est très important. Et les aliments qu'on dit que l'enfant ne tolère pas, souvent c'est que les aliments sont mal lavés. Mais ça peut être aussi par exemple pour le lait, certains enfants qui sont intolérants au lait. Mais on le voit un peu plus tard dans la vie, pas forcément à 6 mois. Donc il faut d'abord vraiment vérifier si tout est bien en ordre avant de dire que l'enfant ne tolère pas ça.
Voilà, docteur Kouné Adoré, on revient à vous, on va vous le sandal. Il y a des auditeurs qui aimeraient déjà intervenir. Nous avons blessé, dit, vous appelez depuis Kisangani et à Mosby, 6 mois qui est à Bukavu. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui des comment garantir bonne nutrition de l'enfant pendant ses 1000 premiers jours. Si vous voulez intervenir, composez les 099-716-80-79.
Parole aux auditeurs.
Blaise Saïdi, vous nous appelez depuis Kisangani, vous êtes en ligne, on vous écoute.
Oui, merci cher Marcel, bonjour à l'invité ainsi qu'aux auditeurs solliciteurs de la radio Capi. Cher Marcel, c'est une thématique très intéressante puisque c'est juste continuité de la thématique d'hier pendant l'émission au Capi Service. Cher Marcel, le concept des 1000 premiers jours met en évidence que le développement d'un enfant commence bien avant sa naissance et que cette période détermine largement sa santé, ses capacités et son épanouissement futur. Donc, c'est une responsabilité partagée entre le parent, les professionnels de santé et la société tout entière. La période des 1000 premiers jours représente une phase cruciale, cher Marcel, pour la vie de l'enfant, où se posent les bases de sa croissance, sa santé, son développement intellectuel, une nutrition adéquate, commencée dès la grossesse et poursuivie jusqu'à l'âge de 2 ans, tel que Madame Levita avait déjà parlé,
oui.
Permet de prévenir la nutrition, renforcer le système immunitaire.
Alors Blaise Saïdi, s'il vous plaît, ne revenez pas sur ce que madame a déjà dit, parce qu'elle est spécialiste en ça. Dites qu'est-ce que vous constatez. J'imagine que vous êtes parent, peut-être il y a des choses que vous avez constatées pour ce qui est pendant la période de la grossesse ou pendant l'allaitement de l'enfant, mais pendant le 6 premiers mois ou les 2 premières années. Qu'est-ce que vous avez constaté que vous aurez aimé avoir plus de précision auprès de l'expert que nous avons au studio?
Voilà. Juste ici, je dois aller à quelques questions.
Allez-y.
Pour économiser le temps.
Voilà.
Je vais demander à madame la première question. Les 1000 premiers jours est divisé en combien d'étapes?
Oui.
Et la répétition est toujours la mère des sciences, cher Marcel, puisque vous avez aussi demandé à madame les rôles de parents. Mais
oui,
je vais encore renforcer cette question. Les rôles du père dans les 1000 premiers jours dans la vie de l'enfant. Enjeux, responsabilité et impact sur le développement. Et pour citer pour cette série de questions, il y a la question sur les services de santé peuvent-ils accompagner les familles durant 1000 premiers jours. Je me limite à ce niveau-là pour donner le temps à d'autres personnes.
Voilà, merci Blaise Saïdi. Depuis Kisangani, Bukavu, Amos, ici moi, vous êtes en ligne. Amos, vous avez la parole et surtout, comme je l'ai fait avec Blaise Saïdi, vous pouvez faire peut-être un petit commentaire sur l'importance d'une alimentation variée chez la femme enceinte, mais aussi pendant la naissance de l'enfant, les 6 premiers mois, mais allez plus aux questions ou peut-être à ce que vous avez peut-être constaté dont vous aimeriez avoir beaucoup plus d'éclairage par rapport à ça. On vous écoute, Amos Bissimoa, depuis Bukavu.
Merci Guy Marcel, je salue l'invité, mais aussi vos nombreuses auditrices et auditeurs. En fait, la thématique est intéressante Parce que comme vous l'avez même mentionné dans votre sujet, cette bonne nutrition de l'enfant pendant ses 1000 premiers jours a un impact très positif sur son évolution, non seulement physique mais aussi mentale. Mais je pense que l'important pour nous, c'est d'abord comprendre les conditions socio-économiques des parents congolais aujourd'hui pour qu'ils parviennent à ce stade. Nous ne devons pas nous cacher les faces parcelles. Je vis à Bukavu, je connais les réalités. Nous qui vivons dans la ville, pour que les mamans mangent, étant enceinte, une maman qui est enceinte, elle peut même mettre au monde, peut-être deux jours après, mais elle transporte du sable, des fagots pour qu'elle ait à manger. En discrétion totale sur le plan socio-économique. Comment alors cet enfant-là aura une bonne nutrition pendant ces 1000 premiers jours? C'est totalement impossible. Moi, je pense que la plupart des fois, nous ignorons par où commencer. Si nous qui vivons à Bukavu, des gens qui vivent à Kinshasa, vous en êtes témoins, on a toujours été à Kinshasa, on connaît la réalité. Les mamans peuvent vivre dans de très mauvaises conditions de vie jusqu'à ce stade. Que pouvons-nous dire de nos mamans qui vivent au niveau de nos villages, au niveau des milliers reculés de la République? C'est vraiment catastrophique. Moi, je pense que le problème se trouve au niveau de nos dirigeants qui ne comprennent pas qu'une maman enceinte doit, on ne dit pas que tout le monde doit être président de la République, que tout le monde devrait être ministre ou député ou qui ou gouverneur, non. Mais quand même, les ressources que Dieu a mises dans ce pays ne nous donnent pas raison de mener la vie que nous menons. Et tant que les parents ne mènent pas une bonne vie, comment l'enfant, elle, aura une bonne nutrition pendant cette
période? Voilà, merci Amos Bissimo. Vous avez insisté, Amos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez insisté sur les conditions socio-économiques. On retient cela. Cela ne permet pas à nos parents de suivre tout ce qu'on donne comme recommandation par rapport à ce qui est de l'alimentation pendant la grossesse ou encore pour l'enfant pendant ses 1000 premiers jours. Merci Amos Bissimo d'avoir appelé depuis Bukavu. Excusez-moi, Maître Naomi Bofuka, ça fait plaisir d'avoir une femme qui va intervenir, qui nous appelle depuis Mbandaka. Maître Naomi, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Marcel, de m'avoir associé à cette émission. Bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Moi, j'interviens justement pour servir, si je peux dire, des témoignages, parce que je suis maman de 3 filles. Avec ma première fille, j'ai appliqué ces principes-là de l'allaitement exclusif pendant le 6 premiers mois. Mais c'était difficile pour ma fille de s'adapter à l'alimentation avec des bouillies et autres. Donc, elle prenait mieux le lait. Le lait, elle le prenait mieux, mais avec les bouillies. Et même jusqu'à 2 ans, c'était difficile pour elle de manger. Alors, je voulais demander à notre invité de me donner, je ne sais pas s'il y a une explication par rapport à ça. Mais même si, quand vous voyez même le développement physique, parce que quand j'ai réalisé qu'avec la première, elle avait des difficultés à manger, avec la deuxième, je n'ai pas pu arriver jusqu'à 6 mois, parce que j'avais peur de subir l'essor de la première. Alors, à partir des 5 mois, j'ai commencé à associer de nourriture complémentaire. Quand vous voyez leur développement, vous voyez que la deuxième, elle a un peu une masse différente de la première. Elle mange très bien. Avec la troisième, quand elle a eu ses 4 mois, bon, elle n'augmentait plus de poids. Hein, je ne sais pas comment m'exprimer selon les termes médicaux. Elle n'augmentait plus de poids. Elle était seulement au lait. Elle n'avait pas d'autre chose à manger. Je suis partie voir le pédiatre. C'est une femme, elle me dira, bon, madame, moi, je pense qu'elle a fait tous les examens, il n'y avait rien. Elle m'a dit, je pense que, comme nous sommes à l'équateur, il fait très chaud. Et puis, elle pleurait beaucoup, mon bébé, là, elle pleurait beaucoup. Alors, comme nous sommes à l'équateur, il fait très chaud. Moi, je te conseille de la donner de l'eau.
Voilà.
Donner-la de l'eau. Oui. S'il faut accompagner même avec de bouillie, essayer de faire ça. Bon, j'ai fait avec la fille là, avec mon bébé. Elle a maintenant 1 année, mais elle est toujours mince, sa taille, ça marche pas. Bon, je ne sais pas s'il y a une explication par rapport à ça. Merci beaucoup et à la prochaine.
Voilà, merci beaucoup Maître Naomi Bofouki d'avoir appelé depuis Mbandaka. J'invite toutes les femmes, je sais que vous êtes nombreuses à ce moment, à nous suivre cette campagne. C'est vrai, c'est la campagne est destinée à toute la communauté, mais c'est plus d'abord à vous les femmes qui êtes les acteuses principales. C'est vous qui portez la grossesse, c'est vous qui enfantez l'enfant, c'est vous qui allaitez. Et c'est vrai qu'on va vous accompagner par la communauté, par la famille. J'invite toutes les femmes qui nous suivent à ce moment d'appeler, de nous faire part de vos témoignages, comme vient de le faire Maître Naomi Bofouki depuis Mbandaka. Fonkandi, vous nous appelez depuis Kinshasa, on vous écoute. Docteur Fonkandi, vous êtes en ligne depuis Kinshasa. Il me semble que Docteur Fonkandi n'est plus en ligne, on pourra le retrouver plus tard. Alors avant de revenir à notre invité, cette réaction sur la page Facebook des paroles aux auditeurs de Marc Odé depuis Kisangani, je remercie le PAM pour cette belle initiative. La nutrition pendant les 1000 premiers jours de vie est cruciale car elle influence directement le développement physique, intellectuel et immunitaire de l'enfant. Une bonne alimentation dès la grossesse permet à l'enfant de bien s'informer. L'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois renforce le système immunitaire et favorise un développement optimal. Ensuite, une alimentation diversifiée, équilibrée, riche en protéines, vitamines et minéraux aide à prévenir la malnutrition, le retard de croissance et même certaines maladies chroniques à l'âge adulte. Voilà, ça c'est Marc Odé depuis Kisangani. Il a également que Pouché qui nous écrit depuis Tanganyika. Je pense qu'une bonne nutrition pendant les 1000 premiers jours de l'enfant est essentielle car elle détermine tout son avenir. Voilà, vous avez été nombreux comme toujours à nous écrire et à réagir sur la page Facebook de Paroles aux auditeurs et dans le groupe WhatsApp de Paroles aux auditeurs. Nous ferons, comme toujours également, les condensés de toutes vos réactions que nous proposons chaque fois. Je le fais à Bongona. Je reviens à notre invité. Voilà, vous avez suivi, en tout cas, il y avait d'abord Blaise Saïdi qui a voulu savoir c'est quoi, il faut s'il y a moyen de revenir sur comment d'abord quand commencent les 1000 premiers jours, hein, il cherché à savoir c'est quand, et est-ce que les services de santé peuvent également aider la maman ou la communauté à bien soutenir l'enfant pendant ces 1000 premiers jours, mais aussi il a souhaité revenir sur le rôle du père.
Très bien. Alors, les 1000 premiers jours de vie, on a dit que cette période commençait de la conception, donc du jour J, où l'enfant a été conçu par la maman et le papa, et va jusqu'à la deuxième année. Mais donc cette période tient compte donc de la grossesse en tant que telle, de la première année de la vie, ainsi que la deuxième année de vie. Ce qui fait bien les deux années plus les 9 mois de grossesse. Et pendant toute cette période, le père, comme la communauté, comme le système de santé, les professionnels de santé ont un rôle à jouer qui peut être différent et qui est complémentaire, synergique. Le papa, il va avoir un rôle durant toute cette période. D'abord, pendant la grossesse, ça va être un soutien psychologique, émotionnel. Le papa va devoir... et c'est bien d'ailleurs que les... ce serait bien d'ailleurs que le papa puisse participer au moins à quelques séances au centre de santé prénatal pour pouvoir mieux comprendre. Voilà, a besoin d'accompagner pour comprendre parce que la grossesse n'est pas une maladie, c'est vrai, mais ça rend les femmes plus vulnérables. Hein, d'un point de vue santé, d'un point de vue émotionnel, parce que c'est un grand chamboulement.
Et ben deux fois on le trouve capricieuse aussi, hein. On ne sait pas.
Ah oui, mais ça, ce sont les hormones. Ouais. Ce sont les hormones. Donc il faut que le papa puisse comprendre dans quel état la maman peut se trouver pour essayer de temporiser, pour essayer d'accompagner au mieux. Parce qu'une maman qui va être sereine, qui va manger, qui va avoir une alimentation adéquate, qui va se faire suivre correctement dans un centre de santé, aura une grossesse en règle générale normal, calme. Voilà. Donc le père a ce rôle-là durant la grossesse. Après, au moment de l'accouchement, il va aussi suivre, il va aider, il va participer. Il y a l'hygiène de l'enfant. Donc c'est vrai que c'est pas toujours très agréable, mais voilà, il faut le faire. Donc il peut accompagner pour ça. Il peut même accompagner pour les quand l'enfant va commencer à avoir une alimentation variée à partir du sixième mois, il va pouvoir accompagner aussi, peut-être participer pour faire les repas. En tout cas, suivre. Voilà, après l'enfant, il va falloir peut-être l'emmener, je sais pas, à la crèche et la nounou. Donc il y a tout ce support, le support aussi éducationnel, parce que l'enfant, on commence dès la naissance, il va falloir parler avec lui, c'est très important. Même si l'enfant ne parle pas, il commence à comprendre et ça va faciliter son développement psychologique et neurologique aussi. Donc le papa a vraiment un rôle pas aussi important que la maman, mais qui a un grand rôle. La maman, pendant la grossesse, c'est elle qui porte le plus, mais elle a besoin du papa.
Mais vous avez suivi, il y a Amos Bissimwa qui a parlé des conditions socio-économiques, non seulement des femmes, mais aussi des papas. Et des fois, la vie telle que ça se passe en réalité, on n'a pas de fois le temps.
C'est une réalité. Bon, ça, c'est pour passer à la deuxième question.
Oui.
C'est une réalité. C'est un challenge de tous les jours pour beaucoup de personnes à travers le monde et en RDC aussi. Mais je pense que, tel qu'on l'a dit, et c'est pour ça que c'est important d'être entouré par la communauté et de participer d'assister aux consultations prénatales. Toutes ces personnes qui ont des expériences, qui connaissent, qui sont dans la santé, peuvent donner des alternatives. La maman n'a pas beaucoup de moyens, mais tiens, il y a cet aliment-là qu'on trouve partout, mais qui est riche en nutriments et tout ça. Et on va lui dire, eh bien écoute, toi dans tes repas, chaque jour, essaye de manger ça, essaye de faire ci, essaye de faire ça. Parce que souvent, on peut trouver les aliments, mais on ne sait pas comment les associer. Et quand on les associe mal, c'est là où ça peut entraîner des carences et avoir des conséquences sur la grossesse, sur le fœtus, sur l'enfant et sur la maman aussi. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a moyen, même si c'est difficile, d'essayer de trouver des alternatives,
de s'adapter, de voir qu'est-ce qu'il faut trouver.
Moi, je vous donne un exemple.
Allez-y, oui.
Je suis tombée enceinte, j'étais en mission au sud Kivu en temps de guerre. Mais je travaillais. Et l'alimentation c'était très compliqué. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu ce qui était à disposition. Je suis médecin, alors je sais ce que je peux associer, mais si je ne l'avais pas été, je serais allée au centre de santé pour dire, voilà, je n'ai pas ça, mais voilà ce qui est disponible, qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai associé les aliments pour avoir une nutrition qui est correcte pendant les 5 premiers mois, puis après j'ai arrêté ma mission pour rentrer chez moi.
C'est un très très bon exemple. Vous êtes médecin, vous avez des connaissances, mais pour ceux qui n'en ont pas, allez dans un centre de santé, allez vous informer.
Tout à fait, puisque pendant les consultations prénatales, il y a de la sensibilisation qui est faite pour ces femmes. On va évidemment surveiller leur grossesse, mais on va leur donner des conseils sur la santé, sur l'hygiène, sur l'alimentation de la femme enceinte. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Et quand vous y allez, vous pouvez avoir des communications comme ça personnelles et vous pouvez poser, les femmes peuvent poser leurs défis et ensemble, ils peuvent trouver une solution.
Voilà. Alors, parlons maintenant du docteur.
La plus adéquate possible.
Voilà.
Rien n'est parfait de toute manière.
Parlons cette fois-ci de Maître Naomi Bofouk qui a parlé, qui a fait un témoignage à cet enfant qui le laisse à passer, mais qui avait du mal à supporter de la bouillie.
Oui, la bouillie, d'accord. Bon, tout en sachant que chaque enfant est différent, parce qu'on a eu les exemples pour les trois enfants, tout le monde est, on est tous différents, et il y a des particularités à chaque enfant. Et bon, moi, ce que je n'ai pas trop compris, si c'était des bouillies de céréales ou est-ce que c'était les légumes, les fruits qu'on écrasait pour faire des bouillies. Parce que moi, avec mon fils, par exemple, il me recrachait tout. Parce qu'il ne supportait pas les petits bouts de peau, de tomates, de choses. Donc après, il faut voir comment. Mais un enfant à partir de 6 mois, je n'ai jamais vu d'enfant qui n'accepte pas de bouillie. En tout cas, les bouillies de céréales. Et puis les fruits, il faut enlever la peau. Les légumes aussi, il faut enlever la peau parce qu'ils n'aiment pas, ils n'ont pas de dents. Et puis ça irrite. ça irrite le tube digestif et ça peut donner des douleurs abdominales, même chez les adultes d'ailleurs. Hein, les tomates crues, par exemple, on dit la peau, c'est pas tout le monde qui supporte. Donc après, quand l'enfant atteint ses 6 mois de grossesse, mais c'est pareil. Quand vous allez voir un pédiatre, vous allez dans un centre de santé, mais les pédiatres, alors c'est encore mieux, ils peuvent vous donner des conseils. Mais avant 6 mois, je suis désolée, on ne donne pas d'eau à un enfant. Le seul moment où on va lui donner de l'eau, c'est quand par exemple l'enfant est malade, il y a un médicament à prendre et on va vous dire il faut diluer ce sachet dans l'eau. C'est la seule façon. Mais même quand il fait chaud, ben, vous le mettez au sein. Maintenant, si l'enfant après... avant 6 mois, il est au sein. Après 6 mois, il a une alimentation complémentaire. Donc là, on peut donner de l'eau. Mais avant 6 mois, en théorie, non. La maman doit beaucoup boire. Parce que plus elle va boire, plus le lait, et puis bien manger. Parce que c'est ça, le lait, c'est des nutriments et de l'eau. Donc quand la maman boit beaucoup et elle mange suffisamment, et puis il y a des, comme je le disais, il y a certains aliments qui favorisent la lactation, certaines plantes même. Et je ne connais pas les noms des plantes ici au Congo, mais je sais qu'il y en a. Il y en a dans tous les pays. Et il y en a qu'il ne faut pas consommer, justement. Le persil, ça n'est pas recommandé quand on allait. Parce que ça diminue la lactation.
Mais sinon, on parle souvent de, je sais pas, peut-être que Julie Feza ou d'autres femmes qui suivent peuvent rectifier. Sinon, pas de courge. On dit que le courge, c'est bon pour une femme qui allait.
C'est possible. Nous, par exemple, le gombo, juste après l'accouchement. Ça dépend des pays. Mais par exemple, le persil qu'on retrouve aussi au Congo, ça n'est pas conseillé quand on allait au début parce que ça peut ralentir, diminuer la lactation. Voilà. Mais il y a d'autres plantes et c'est là où les matrones, les vieilles femmes dans les communautés sont importantes. Elles peuvent donner des conseils. Et donc, pour les enfants qui ne supportent pas la bouillie, ben, il faut essayer de je ne sais pas, la dame n'a pas donné la précision sur la bouillie, mais si c'est des légumes, des fruits, il faut enlever les peaux et puis bien mixer de façon à ce que ce soit vraiment lisse et que ça passe. Maintenant, ça peut être le goût. Mais alors, quand c'est le goût, justement, dans les centres de santé, on apprend à faire, et dans la communauté, avec les relais communautaires, on apprend à faire des bouillies enrichies locales, avec des aliments que les enfants aiment, comme l'arachide. Il y a le maïs, on va mettre l'huile, on peut écraser des fruits comme des mangues, comme des bananes, voilà. Et on apprend à faire ces bouillies enrichies.
Voilà, on va prendre la deuxième vague d'auditeurs avec Dr Franck Kandé, qui nous appelle depuis Kinshasa, également Tagami Lagati, Jonathan, depuis Bounia. Mais avant cela, les condensés, deux réactions par rapport à ces sujets. Comment garantir une bonne nutrition de l'enfant pendant ses 1000 premiers jours? Direction favorable exprime une approbation forte quant à l'importance de la nutrition durant les 1000 premiers jours, soulignant le rôle des familles, des communautés, des politiques publiques et appelle à la responsabilisation collective. C'est ce que pense Blaise Saïdi, Toumaïni, Sylvano, Baraka Godefroy, Kepuchi Baloukou et Marc Lingwanda. Il y a de la réaction des forums, donc tout le monde est d'accord pour une bonne nutrition de l'enfant pendant les 1000 premiers jours. Et l'action naître s'articule autour d'une réflexion sur l'équilibre des responsabilités entre les parents, communauté et l'État, insistant sur les difficultés socio-économiques qui limitent l'accès à une nutrition adéquate. Ce que pense l'ingénieur Léon Tibogo. Et face à l'enjeu crucial des 1000 premiers jours, la mobilisation collective pourra permettant-elle vraiment de transformer durablement la nutrition infantile? Notre invité va y répondre. Pour l'instant, on prend le deux derniers auditeurs. En tout cas pour les magazines d'aujourd'hui, on commence par Dr Franck Kandé, qui nous appelle des Kinshasa. Dr Franck, vous avez la parole.
Merci, cher journaliste. En tout cas, mettre l'enfant nouveau-né au sein, le nourrir du lait de sa mère est un acte naturel qui tire sa nécessité d'impératifs biologiques et psychologiques. Nécessairement, le succès de l'allaitement dépend largement du désir qui ne prouve que la mère de nourrir son bébé au sein. Si c'est là vraiment, il a vraiment la volonté d'allaiter parce qu'elle est convaincue. Alors que cette campagne pouvait en tout cas mettre en œuvre les experts en technique communautaire, les experts qui peuvent en tout cas sensibiliser, bien éduquer les femmes à comprendre que non, les enfants doivent être bien allaités, éviter le lait de vache, le lait artificiel. nourrir l'enfant en tout cas à des conditions convenables, ce qui va vraiment mettre un bon accent sur le nouveau-né. Mais si elle a en tout cas la ferme volonté d'allaiter, pas moyen qu'elle puisse donner à son enfant, autrement dit, si elle a confiance en elle, elle a toutes les chances de réussir quand elle sera psychologiquement prête à surmonter les obstacles et à éviter les influences qui pourraient faire échouer l'allaitement ou à l'en détourner. Donc cela vraiment ne veut pas dire que la mère puisse se débrouiller toute seule pourvu qu'elle veille sur la nourriture de son enfant. Au contraire, la famille aussi, les éducateurs sanitaires qui passent de temps en temps dans le milieu, elle va en tout cas l'aider à surmonter ses obstacles et à pouvoir un peu bien allaiter son enfant.
Voilà, merci beaucoup docteur Kandé depuis Kinshasa. Tagamili Agati, Jonathan, vous êtes à Bounia, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup cher Marcel, merci aussi à l'invité. Mais de toutes les façons, j'ai un constat que je fais et c'est au vu de ce constat que je donne et je dis vraiment que la sensibilisation dans ce sens est très importante et déjà j'encourage le PAM comme ça dans ce sens. Alors, il y a une divergence dans l'opinion des femmes allaitantes selon suivant laquelle d'autres, une opinion dirait que non, le colostrum, c'est-à-dire le premier lait maternel, serait un déchet, alors que d'autres disent non, c'est un lait vraiment très capital pour la santé de l'enfant. Alors, c'est question de sensibiliser les femmes sur le rôle important du colostrum qui est le premier lait maternel. Mais aussi, l'allaitement des routines, c'est très important. J'ai vu une femme allaiter son enfant, voire même jusqu'à 2 ans. C'est la femme qui amène la chaise à sa maman pour dire « Maman, donne-moi le lait ». Vous voyez. Alors, c'est un peu dans ce sens. Mais néanmoins, j'ai 3 petites questions. Allez-y. La première question, une femme qui souffre de cancer de sein, une femme souvent au moment de l'allaitement, mais qui souffre de cancer de sein, est-ce que cela ne peut pas-t-il impacter l'enfant dans ce sens? La deuxième question, une femme se trouva aussi à la période de l'allaitement, mais qui se retrouve devant une situation de la galaxie. La galaxie, c'est une situation qui se présente suivant laquelle il y a l'absence de la production lactée chez la femme. Est-ce qu'il y a-t-il une autre alternative pour cette femme-là? Et si oui, quelle est cette alternative? Je dis merci et je vous remercie, cher Marcel.
Voilà, merci à Tagamile. Agati, Jonathan, depuis Bounia, on me dit qu'il y a un auditeur qui aimerait également intervenir. Le sera le tout dernier. C'est Ngunga Muchitumbu qui est en ligne. On l'écoute. Allez-y, vous avez la parole. En 2 minutes, rapidement, à 10h, on ne pense qu'à la fin. Allez-y.
Oui, bonjour Marcel, bonjour à l'invité, depuis la radio.
Allez-y, vous avez 2 minutes. Oui, allez-y rapidement, oui.
À quel âge l'enfant peut prendre du foufou?
Oui.
C'est à 6 mois ou bien c'est à 5 mois ou bien à quel âge exactement?
D'accord, merci beaucoup. Notre invité va réagir à votre question. Merci d'avoir appelé depuis Kikwit, de la province du Kulu. Docteur Kouniya Doré, alors on y va rapidement. Vous avez, de toutes les façons, pour le docteur Fonkandé, c'était une contribution par rapport à ces sujets, mais il y a cette question pour le problème des carences de lait, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a cette question, à quel âge faut-il commencer à donner du foufou à l'enfant? Et puis il y a le lait de vache artificiel, le docteur Fonkandé qui a estimé qu'il ne faut absolument pas les donner aux enfants.
Oui, tout à l'heure je parlais donc de, alors, allaitement maternel exclusif avant 6 mois, jusqu'à 6 mois, pardon, à partir de 6 mois, introduction progressive d'aliments solides pour avoir une alimentation de complément, le lait émet tout en continuant l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans et même au-delà, même après 2 ans, certains enfants sont allaités.
On peut aller jusqu'à...
Il n'y a pas de contre-indication.
Ok.
Maintenant, je parlais de certaines mamans qui ne pouvaient pas allaiter pour lesquelles il y a des contre-indications médicales. Par exemple, le cancer du sein. Par exemple, une infection virale, Ebola, par exemple. Où là, la maman, on va lui dire, non, vous ne pouvez pas allaiter. Donc, bien sûr qu'il y a une alternative qui est, en fait, le lait artificiel. Le lait de substitution, le lait artificiel, que l'on trouve grandement dans les boutiques. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est préconisé, mais c'est une alternative. Le lait artificiel va couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant, aussi bien que le lait maternel. Mais la différence, c'est que dans le lait artificiel, vous n'avez pas les anticorps de la maman. Donc l'enfant n'aura pas cette protection qui est très très importante quand ils sont jeunes. Il n'y aura pas le même lien entre la mère et l'enfant qu'il y a au moment de l'allaitement maternel au sein. Mais la plus grande différence, ce sont les anticorps. Et puis, il y a le danger de contaminer le lait artificiel qu'on va préparer. Les manipulations nécessitent vraiment une bonne hygiène. Sinon, vous allez rendre votre bébé malade. Et c'est ça le danger, en fait. Alors, c'est vrai que dans les pays en Europe, le lait artificiel est très utilisé. Mais pourtant, c'est l'allaitement maternel qui est recommandé, mais les mamans peuvent acheter, mais voilà, certaines sont dans des conditions où elles peuvent assurer une hygiène. Mais une maman qui est dans un village ou dans un contexte où vous avez une guerre, des combats, c'est difficile d'assurer une pleine hygiène par rapport à ça. Donc, autant ne pas prendre de risques et vraiment aller vers l'alimentation maternelle, qui en plus ne coûte rien. Parce que les laits de substitution, ça coûte très cher.
Juste pour parler de l'allaitement maternel, ça m'est revenu à l'esprit. Il y a quelqu'un qui a parlé des idées reçues sur le colostrum. Il y a ceux qui estiment que c'est du mauvais, c'est pas du lait propre, tout et tout.
Non, justement, c'est ce que j'ai dit au début. Le colostrum, c'est pas très beau. C'est un lait enrichi. C'est une bombe d'énergie, une bombe de vie. C'est le premier vaccin de votre enfant. Donc c'est à consommer. C'est vraiment à consommer. Et c'est pas parce qu'il a une couleur un peu jaune que c'est épais, ça n'est pas un déchet, c'est une erreur. Et c'est vrai que longtemps, les gens disaient oui, c'est pas du lait, il faut le laisser partir. Mais non, c'est scientifiquement prouvé. Ça doit être pris dans l'heure. Et puis, en plus, ça va vraiment amorcer la lactation. Donc c'est vraiment important de consommer ce colostrum.
Alors, on va finir, on est vraiment à la fin de ce magazine, docteur Kounéa Doria. Message aux femmes, à la communauté et au papa.
Oui, donc déjà, je suis vraiment contente parce que toutes les questions qui ont été posées, beaucoup ont été posées par des hommes, ce qui prouve que les hommes ont un intérêt. Et c'est très important. Mon message serait vraiment la nutrition. Déjà, l'enfant, c'est l'avenir d'un pays. Et il y a un proverbe qui dit il faut manger pour vivre et pas l'inverse. Il faut bien manger, avoir une bonne alimentation pour vivre et pas l'inverse. Donc la nutrition est vraiment au centre et au centre. Et c'est quelque chose en fait qu'il faut vraiment avoir cette approche dès la conception ou même durant toute la vie, on va dire, parce que la petite fille, elle va devenir maman à un moment donné. Donc il faut aussi qu'elle ait une bonne alimentation. Il faut qu'elle soit suivie régulièrement. Il faut donc ça remonte bien plus loin même en fait. Hein. Donc la nutrition est vraiment quelque chose de très important et l'alimentation, l'allaitement maternel est un geste naturel, c'est un geste d'amour. Il faut pas que les mamans, par contre, là, je vais insister aussi, on parle des contre-indications à l'allaitement maternel. Il faut pas, par contre, que les mamans pour lesquelles il y a une contre-indication culpabilisent. Non. Mais celles qui peuvent allaiter, c'est vraiment un geste d'amour, c'est un cadeau, c'est quelque chose d'indispensable. Et le papa a pleinement sa place dans la grossesse, dans la naissance, dans l'éducation de l'enfant, et il est responsable. Les parents, on est responsable de ce que les enfants vraiment vont devenir.
On est vraiment à la fin de ce magazine. Merci beaucoup, docteur Kounéa Doria. Je rappelle que vous êtes chef de la section nutrition du PAM RDC. PAM, c'est le programme alimentaire mondial. Merci d'avoir été de nombre. On espère vous retrouver très prochainement.
Merci à tout le monde.
Voilà. Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs des studios. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debs Vita qui est à la mise, à Nanda, Julie Fezab, Bongonda, qui l'a réalisé et coordonné à Jonathan Chimanga de l'équipe multimédia. Au micro, c'était Marcel Gomombala. À très bientôt.